Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Alors bonjour François, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour Leslie, moi je m'appelle François de Verdière, je suis artiste depuis 20-25 ans. Et j'ai commencé ce travail après avoir eu, j'ai été pendant 20 ans un ingénieur.
Ok.
Et à la sortie d'école, j'avais appris à construire des avions et des fusées, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller aux États-Unis et apprendre l'informatique avancée, parce qu'à l'époque, c'était pas très... Donc j'ai demandé une bourse à l'université de Berkeley, en Californie. Voilà, j'y suis resté 2 ans pour apprendre, passer des diplômes et tout. Et quand je suis revenu en France, en fait, j'ai exercé un métier d'ingénieur dans les techniques un peu avancées, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle,
ouais.
Mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et puis, au bout de 20 ans, 25 ans, je me suis retrouvé avec une sale maladie, qui est la polyarthrite rhumatoïde, et ça m'a foutu un bon pet au moral, et j'avais plus envie de... Je me disais, mais que j'étais aux États-Unis en plus à l'époque, pendant 3 ans, ma famille était ici, j'arrêtais pas de...
Ah oui.
De faire des allers-retours, c'était fatigant en plus, quoi. Donc je me suis dit, ça va pas du tout, quoi. Je me suis remis en cause. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas faire autre chose. Et moi, j'aimais bien l'art, mais comme consommateur,
okay.
En fait. Depuis assez longtemps, avec mon épouse, on achetait de temps en temps un tableau, des trucs comme ça. Mais pas comme créateur. Alors... Aux US, j'étais à Pittsburgh, il y avait une bonne université d'art qui est le Carnegie Institute. Et donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu ce qu'ils font et tout en cours du soir et tout ça. Et ça m'a bien plu. Du coup, je me suis mis comme ça, petit à petit, un peu autodidacte. Et aussi, j'ai quand même suivi j'avais quelques copains qui étaient professionnels. Donc dans des ateliers où j'ai appris un peu plus.
Ouais.
Au début, la peinture, où je connaissais rien. Bon, et puis j'ai montré mon travail un petit peu. Les gens trouvaient que c'était pas mal, intéressant. Bon, donc j'ai continué, quoi. Voilà, et petit à petit, j'ai été de plus en plus dans justement cet environnement de création. Le seul problème que j'ai trouvé au bout de 2 ans, c'est que j'étais tout seul. Et moi, je n'aimais pas ça du tout, parce que les 20 années précédentes, j'étais entouré de clients, de collègues, de collaborateurs.
Et on échangeait tout le temps.
On échangeait tout le temps. Il n'y avait pas un moment où on était seul. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, finalement, j'ai des compétences passées. Elles sont plutôt orientées sur... Comment s'organiser, comment monter des projets, tu vois, des trucs comme ça, quoi, de construction qu'on retrouve dans les métiers que j'avais fait, ou organiser des équipes. Et finalement, donc je me suis dit, tiens, je vais mettre ces compétences à disposition d'assos qui ont besoin de ça. Donc j'ai rejoint une première petite assos qui organisait des allers-retours à l'international, tu vois, une expo en France, et puis hop, une expo aux États-Unis avec les Américains et les Français, tu vois, des trucs. On a fait ça avec les Brésiliens, avec les Allemands, etc.
Ça existe encore, de ce genre?
Oui, elle existe encore, mais elle ne fait plus beaucoup d'expos internationales, parce que c'était moi qui m'y collais.
Ah oui, d'accord.
Et j'ai vraiment plus de temps. Voilà.
Ah, bien sûr.
Et alors, à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est important d'avoir du fric. Et comment on peut avoir du fric? Il n'y a que deux moyens. C'est soit les gens qui ont du fric, qui sont riches, soit c'est l'État. Ouais. Et l'État, j'y croyais pas du tout. Je pense que c'est pas bon de dépendre de l'argent de l'État. Parce que on se retrouve face à une bureaucratie qui exige de vous des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc je me suis renseigné comment une association pouvait être habilitée au mécénat. Bon, j'ai rencontré un type au ministère de la Culture super compétent là-dessus, qui est toujours là, Robert Faure. Il m'a dit, mais c'est facile, tu fais une lettre, voilà, je te dicte le modèle de la lettre, et tu l'envoies à ton inspecteur des impôts avec tes statuts. C'est ce que j'ai fait. 15 jours après, j'avais la lettre des impôts qui disait, mais vous êtes habilité à d'intérêt général, ouais. Vous êtes habilité, donc vous recevez de l'argent et les gens peuvent déduire les 2/3 du don de leurs impôts. Voilà, donc ça nous a bien aidés. Et puis bon, ça a continué comme ça. Et puis à un moment donné, c'était il y a 2006, 2007, ouais, une douzaine d'années, quinzaine d'années. J'ai un copain qui me dit, écoute, tiens, vu ce que tu fais, ça pourrait intéresser la Maison des Artistes parce qu'ils veulent organiser une convention européenne. Donc il y a plein de pays différents qui ne parlent pas français forcément, etc. Donc moi j'ai été et donc je me suis retrouvé à préparer cette convention européenne parce que j'étais le seul à parler anglais, enfin le seul, couramment quoi. Et donc c'était un truc pas mal, intéressant, c'était à Pompidou, hein, à Beaubourg.
Okay. C'était en quelle année?
C'était décembre 2008, donc il y a 12 ans. Et on avait réuni les associations des 27 pays d'Europe. Ou ceux qui paraissaient représentatifs, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'association nationale. Par exemple, en Italie.
Ah oui?
Non, il n'y a rien. Bon, alors, donc je me retrouve, on fait ça, et ça avait c'était bien, c'était une bonne... On comparait tous les systèmes.
Ouais.
Sociaux, trucs, comment les gens vivent.
Et c'était avec la Maison des Artistes, association. Ou Sécurité Sociale?
Association.
Oui.
Ça a eu un bon retentissement. Bon, et du coup, après... Il y avait des élections en 2010 et on m'a demandé de me présenter au bureau. Donc j'ai fait ça en 2010. J'ai été élu secrétaire général. Ouais. Bon, je me suis un peu ennuyé, à dire vrai.
En tant que secrétaire?
Ouais. Je me suis ennuyé. Il y a eu un nouveau bureau élu en 2016.
2016, oui.
Sur lequel pas grand-chose a changé. Et au bout d'un an et demi... début 2018, donc même pas, ouais, un an, Rémi Aron a donné sa démission. Bon, pour des raisons personnelles que je... Bon, peu importe. Et alors, bon, et à ce moment-là, les copains m'ont dit, du bureau m'ont dit, ben t'as qu'à te présenter, il faut remplacer le président, et il fallait remplacer un ou deux membres de bureau. Bon, je me dis, si je me présente, à ce moment-là, moi je veux me présenter sur un projet, pour faire quelque chose,
pas, oui,
pour, pas pour rien faire dans un coin, quoi. Et donc j'ai bâti un projet qui était pas génial, hein, mais basé sur quatre trucs qui me semblaient importants. Le premier, c'est que le système qui aide les artistes est vraiment mal foutu, parce que seuls ceux qui sont sous le robinet des pouvoirs publics, des institutions, peuvent recevoir de l'argent parce qu'ils sont dans l'axe, que vous expliquez bien d'ailleurs dans le podcast, dans le newsletter.
Ouais.
Et j'ai dit ça, c'est pas acceptable. Par les artistes, et c'est vrai que les artistes, ils en ont ras-le-bol, quoi.
Oui.
Alors, pas ceux qui sont sous le robinet. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui créent de l'art conceptuel, art, entre guillemets, contemporain, moi, ça m'est égal. Je trouve ça très bien, même.
Oui.
Ils le font, ça leur plaît, mais ils le font. Mais que...
Ce soit les seuls.
Que ce soit les seuls, alors que c'est l'argent de nos impôts. Bon, l'argent de nos impôts, on le donne pas à une seule... Ça, c'est inacceptable. Et pour dire, j'irai plus loin que ce que vous avez été. Maintenant, je suis convaincu que c'est un groupe d'individus qui gère un réseau dont l'enrichissement est propre au réseau. Ça sort pas, quoi. Alors, du coup, ça, c'est le premier point, en disant, et on va se battre. On va essayer de, voilà. Le deuxième point, c'était travailler sur la parité. Parce que tout le monde dit qu'il y travaille, mais il n'y a pas grand chose qui se fait. Hein? Bon, ceci dit, un an après,
Il n'y a pas grand-chose qui est fait encore.
On n'a pas encore fait grand-chose. Si, on a quand même fait une étude, un sondage, mais gros, avec 1600 réponses et tout, dans, du boulot. C'était à dépouiller, il a fallu mettre pratiquement 9 mois, quoi.
Oui, oui.
C'est très long, très lourd, très long, etc. Parce que les...
Surtout que vous êtes une asso, parce que là, oui. tout ce travail-là, il a été fait dans le cadre de l'association La Maison des Artistes.
Oui, exactement. Mmh. Ouais. C'est ça, oui, oui. C'est... Dont les revenus, bon là c'est une incidente, mais les revenus ne sont que des artistes qui mettent 28 euros, la cotisation perso, qui est volontaire, alors que le travail de collecté par la Sécu, lui, n'est pas volontaire, il est obligatoire. C'est un travail, les 28 euros, c'est participer à la solidarité entre artistes. Mmh. Voilà. Donc, bon, on a des ressources qui sont quand même limitées, mais comme il y a quand même entre 16 et 20 000 adhérents selon les années, hein, parce que quand les gens n'ont pas beaucoup de sous, même les 28 euros, c'est un peu cher. Et bon, mais ça fait du monde quand même. Alors, le quatrième, aider les graphistes, parce que la SOS ne faisait rien pour les graphistes. Elle avait des contrats, elle avait établi des partenariats avec des contrats, vous voyez, de prix réduit de 30% ou 20%, avec le géant des beaux-arts, des trucs comme ça, vous voyez, ou avec le transport d'œuvres d'art, avec NR, ou avec des bons trucs, une mutuelle, bon, des trucs bien, quoi. Mais rien de spécifique pour les artistes. Les graphistes, pardon, rien. Et donc, on a commencé à négocier avec Apple, avec Adobe, avec ces gens-là, pour qu'ils offrent des conditions préférentielles aux gens qui viendraient avec montreraient qu'ils sont artistes professionnels.
Ah oui, d'accord.
Bon, et puis ça commence à marcher, quoi. Et alors le dernier point qui était aussi important que le premier, c'était de se dire il faut travailler sur le revenu des artistes, qui est incroyablement catastrophique. 10% des artistes ont un bénéfice non commercial, donc ce qu'ils gagnent vraiment, supérieur à 30 000 euros par an.
J'ai vu ça, oui.
Bon, ce qui est pas mal. 30 000, on peut vivre, quoi. Je veux dire, c'est pas...
Oui, il y en a 10%, quoi.
Hein?
Il y en a 10%, quoi.
Ouais, mais c'est 10%. Et les 10% suivants, quand on fait l'histogramme...
Ouais, les 10% de ces 10%, donc 1%.
Non, non, les 10% suivants, c'est-à-dire...
Ah, pardon, oui.
10, et puis après les 10 autres, eux, ils gagnent entre, on va dire, entre 12 000 et 20 000. On peut encore vivre, mais c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Hein. Bon. Faut être aidé un peu. Mais les 80% qui restent, vous savez combien c'est? C'est entre 4500 euros et 8000 euros. Il y a presque 80% des artistes qui sont en dessous du seuil d'affiliation de la Maison des Artistes.
Oui, oui.
Qui n'ont pas de quoi le payer. Qu'on établisse des critères d'activité, de trucs avec des expos, etc. Et qu'à cela, par exemple, on rémunère le droit de présentation, qui n'est pas rémunéré aujourd'hui.
Ce qui devrait quand même être la base.
Ouais, c'est quand même la base. Alors que les images des artistes sont utilisées partout, par Internet, etc., sans aucun contrôle, quasiment aucun contrôle. Mm. Bon, donc on a donné des pistes comme ça, on verra.
Mais parce que vous êtes l'association privilégiée de discussion avec l'État, ou comment ça se passe?
Ben, ils ont discuté aussi avec des syndicats.
Donc,
le problème des syndicats, c'est que c'est des toutes petites structures. Et nous, on avait créé une structure aussi syndicale parce que l'État nous disait « Ah ben, vous pouvez pas être dans les tables rondes syndicales parce que vous pouvez pas être un syndicat. » Ah bon, pourquoi on peut pas se déclarer comme un syndicat? Ah ben non, parce que vous êtes agréé sécurité sociale. Ça, vos statuts vous l'interdisent.
Bon. Mais je comprends pas votre association. J'arrive pas à comprendre.
Alors, je vais vous expliquer
La sécurité sociale et l'asso, je comprends pas.
Mais ça va disparaître. Donc je vous le dis.
C'est pour moi.
Non, mais ça peut être important après si on discute de l'avenir. Jusqu'ici, c'est Malraux qui a créé ça. Hein.
Ouais.
Il a créé en 62 une sécurité sociale des artistes qui n'existait pas, en disant elle sera sous la tutelle d'une association qui était la plus grande association à l'époque, qui s'appelait la Maison des Artistes.
D'accord.
Ça, c'est 62. C'était une association qui existait déjà.
D'accord.
Mais il a dit, attendez, il faut créer de nouveaux statuts. Et donc, dans les statuts... alors d'abord, l'association, elle a un numéro SIRET, Elle a dans ses statuts toute la première partie, c'est le conseil d'administration, la sécurité sociale, la gouvernance sécurité sociale.
Ok.
Un conseil d'administration, etc., avec des élections, des candidats, etc. Et la deuxième partie, c'est un bureau qui fait le truc associatif, les services aux adhérents, etc.
Autre que la sécurité sociale.
Exactement.
D'accord.
Voilà. D'accompagnement, on va dire,
hein,
d'information.
C'est un hydre à deux têtes.
Oui, exactement.
Okay.
Et d'ailleurs, moi, je ne savais pas, mais je me suis aperçu que la partie Sécu, l'administration de Sécu, qui s'appelle Sécu Artiste-Auteur maintenant, hein, depuis 3-4 ans, elle a regroupé les gens qui bossaient à la GSA et les gens qui bossaient sous la Maison des Artistes. Ils ont fusionné ces deux trucs-là. Mais le CIRET, ou le CIREM plutôt, c'est le même que celui de la Maison des Artistes.
Ah, c'est celui-là qui a été gardé?
C'est parce que c'est dans les statuts. Et il y a juste le complément, et c'est un établissement différent. Donc, vous avez un truc avec un siège social, c'est la SOS, et un établissement, ça, c'est la Sécu. C'est comme ça que c'est. Entre nous, c'est un peu compliqué. Hein.
Oui, d'accord.
Alors, puisque vous avez posé la question, ce truc-là va changer. Il a commencé à changer. Hein. Au 1er janvier, la collecte que faisait Sécu Artiste-Auteur, hein, c'est plus eux qui la font. Collecte, c'est l'URSSAF.
Oui, ça j'ai vu.
Là, vous avez vu, c'est l'URSSAF de Limoges. Bon, et en ce moment, les institutions, ministère de la Culture et Affaires Sociales, discutent avec nous, et la GSA d'ailleurs, sur le devenir, quoi. Nous, on dit, il faut quand même que vous reconnaissez qu'on fait un boulot pour les artistes, on a besoin d'être encouragés minimum, quoi. Et que ce qu'on a fait soit reconnu, quoi, que la carte de la Maison des Artistes soit un truc reconnu. Quoi.
Mmh.
Alors, il est quand même reconnu, puisqu'il permet d'entrer gratuitement dans les musées, des trucs comme ça.
Mais pas la carte Maison des Artistes Association.
Si, si. Ah oui, c'est la Maison des Artistes Association, ouais. Qui permet parce qu'on a discuté avec les patrons des musées. Enfin, vous voyez, c'est toujours une négociation. Donc, on discute, on est en pleine discussion. Et c'est compliqué parce que l'AGSA, justement, est une association, mais qui n'a rien d'une association. Il n'y a aucun adhérent. AGSA, zéro adhérent.
OK.
C'est une association qui est formée de 15 individus qui sont les patrons, les patrons des organismes de gestion de droits d'auteur, ce qu'on appelle les OGC, organismes de gestion collectif, comme la SACEM, comme la SACD pour les écrivains. Bon, il y en a trop quatre comme ça.
Ça ne fait pas un peu conflit d'intérêt, tout ça?
Attendez, oui, vous allez voir, c'est marrant. Donc, ces gens-là avaient la tutelle de Sécu Artiste Auteur AGSA. Hein. Mais ce n'était pas une assoce. Enfin, ce n'était pas une assoce traditionnelle avec des adhérents. Du coup, les gens qui ont formé ce truc-là, sous la houlette du ministère, la SACEM en particulier, qui est riche, comme Crésus. Alors, je vous dis un chiffre. La DAGP qui fait ça pour les artistes-auteurs, hein, oui. Enfin pour les graphistes, etc., c'est 100 millions.
D'accord.
Donc voilà. La SACEM, c'est beaucoup plus. C'est 9 milliards.
Okay.
Donc, ils sont très riches. Et ils ont quand même, je trouve que ça mérite d'être salué, ils ont quand même fait organiser des services pour leurs sociétaires adhérents, quoi. Eux en ont des adhérents. À la SACEM, à la SACD, etc. Et, par exemple, des aides pour ceux qui sont vraiment dans la merde. Hein. Comme nous, on a une caisse d'action sociale qu'on distribue tous les ans. Il faudrait doubler tous les ans, d'ailleurs, le montant qu'on distribue, parce que tellement c'est pas terrible, quoi, la situation. Ben, eux, on fait ça aussi. Mais ça a été fait par chacun des OGC. Ça n'a pas été fait par la GSA. Hein. Des assurances, des trucs comme ça. Bon, donc ils en ont fait, quoi. Ils ont fait des services, ils ont offert des services à leurs sociétaires adhérents.
Mais eux, du coup, maintenant, ils géraient...
Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? L'État voudrait... Quand je dis l'État, c'est les deux ministères. Hein, qui...
ouais.
L'État voudrait que les statuts de la GSA... soit les statuts futurs de la Sécu des artistes-auteurs, sans adhérents.
Mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'artistes?
Pas directement, non. Ils voudraient que les OGC SACEM et autres, soit dans le conseil d'administration, ce truc-là, et aussi les syndicats, donc dont on a parlé. Voilà, on en est là, et ils nous organisent des réunions de travail avec les organisations professionnelles aussi. Donc nous, ah oui, j'ai expliqué, j'avais pas terminé, on a créé un syndicat, puisqu'on pouvait pas l'être. Oui. Maison des artistes, on n'avait pas le droit d'être organisation professionnelle, ce qui était quand même costaud, puisqu'on avait 18 000 ou 20 000 adhérents, selon les années. Et donc, on a créé un syndicat qui était négligé par le ministère de la Culture. Donc, on l'a appelé Solidarité Maison des Artistes. Et il a été négligé jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de l'adosser à la CFDT. Donc, on est allé voir la CFDT, on a dit, écoutez, vous, vous vous occupez de salariés, mais vous devriez peut-être vous occuper aussi de problèmes qui sont pas évidents, qui sont les professions d'indépendants.
Travailleurs
sans emploi, ou qui ont des emplois, mais voilà, et pas facile. Bon, alors du coup, ils ont dit, d'accord, ça nous intéresse exactement, et on s'est bien entendu, voilà. Donc, et alors du coup, depuis qu'on a rejoint la Confédération, là, le ministère s'est ouvert, on est invité à toutes les réunions, etc. Et donc, effectivement, ils reconnaissent le rôle, quoi.
Voilà. Donc ça veut dire que ce syndicat, il existe toujours?
Il existe toujours,
d'accord.
Ouais.
Donc il s'appelle Solidarité...
SMDA/CFDT.
D'accord.
Et d'ailleurs, le responsable de ce syndicat, Jean-Marc Bourgeois, est systématiquement invité à toutes les réunions de concertation. Et en fait, il nous remplace. Il est notre bras armé, on va dire. Hein, on peut dire. Alors, l'évolution, elle est... Moi, je suis plutôt pour que... je cherche pas trop d'argent de l'État pour nous aider. Moi, je suis plutôt pour trouver des sous ailleurs. Il y a 4 ans, j'ai poussé à la création d'un fonds de dotation. Vous voyez ce que c'est un fonds de dotation?
Rappelez-moi.
Alors, c'est entre la fondation et l'association d'intérêt général.
Ah oui, d'accord.
C'est entre les deux. C'est comme l'association d'intérêt général, sauf qu'en plus, ça peut recevoir des legs.
Ah d'accord, ça peut recevoir et des dons et des legs.
Voilà, alors d'accord. Que l'association ne peut pas recevoir de legs. Si elle reçoit des legs, elle va être imposée à 60% comme tous les gens qui ne sont pas en ligne directe. Quoi. Donc ça, on l'a fait et on s'est dit, bah, ça va être notre outil pour aller voir. Et donc, je démarre là, je fais démarrer depuis un mois ou deux, une petite équipe qui va identifier des gens qui ont des ronds, hein, qui regardent l'art avec sympathie. Mais pour ça, il a fallu qu'on bâtisse un plan d'action.
Ouais.
Donc, on a fait un premier plan dans lequel on s'est dit, il faut d'ici la fin de l'année voir une dizaine de ces gens en leur disant, ben voilà ce qu'on veut faire et on a besoin de vous et voilà. Donc, voilà où on en est.
Alors, moi, si je suis artiste,
ouais.
Quel intérêt j'ai à aller à la maison, à l'association Maison des Artistes?
Ah voilà, la cotisation, elle sert à...
Donc la cotisation est de 28 euros pour
ouais,
tout le monde.
28, ouais. Elle va passer à 30, parce qu'elle n'a pas bougé depuis, depuis 5 ans ou 6 ans. Alors avec ça, on a une carte. Carte Maison des Artistes.
Oui.
Cette carte, elle permet l'accès...
dans tous les musées.
Dans tous les musées.
Mais ça, enfin, ça on l'a déjà en étant à la sécurité sociale.
Ouais, mais la sécurité... Mais
les musées ne sont pas toujours
au courant. Les musées ne sont pas au courant.
Oui,
et
c'est vrai.
Disent, non, nous, on prend la carte de la Maison des Artistes. Bon, enfin, peu importe, d'ailleurs. Elle donne droit à une collection de services gratuits. Par exemple, on peut avoir des consultations juridiques avec un avocat gratuit, à qui on explique voilà mon souci et tout, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, qui fait un premier diagnostic. Et 2 fois par mois, on a des sessions d'une journée. Ça représente probablement pas loin de 350 individus qui sont aidés dans une année. On a changé de conseil juridique d'ailleurs. On a pris une jeune avocate qui a commencé en début d'année. Il y a la même chose en consultation fiscale. Parce que souvent, les artistes disent « Oh là, mais qu'est-ce que je fais? Comment je déclare mes trucs ?» En plus, comme ça change.
Oui, c'est en train de changer en ce moment.
Donc, il y a un responsable, un expert comptable.
Donc là, si j'y comprends rien à ce que je dois déclarer fin 2019, je suis à la Maison des Artistes, je peux avoir des aides.
Ouais, Michel Lévy sera là pour...
D'accord.
Et il fait pareil, 2 consultations par... 2 journées ou 4 demi-journées, je ne sais plus. Bon, dans lequel il prend les gens au fur et à mesure et il leur dit « Ben voilà ce qu'il faut faire. » Il y a une consultation... identique d'une assistante sociale. Ça, c'est un truc qu'on a démarré il n'y a pas longtemps. On s'est aperçu qu'en fait, peut-être que ça pouvait servir, quoi. Oui. Et effectivement, donc ça, c'est une assistante sociale qui vient d'audience. Une mutuelle plutôt orientée d'ailleurs dans le secteur des arts du spectacle vivant. Mm. La maison des artistes rémunère le
professionnel,
le prestataire, en lui demandant de pas exagérer quand même, mais quand même on le rémunère quand même, voilà. Et donc du coup le conseil est gratuit pour l'artiste,
ouais, pour l'adhérent.
Alors après s'il continue parce qu'il a besoin de, par exemple d'engager une action en justice. Là, c'est autre chose. Peut-être que je peux en parler maintenant.
Ouais.
Parce que ça, c'est un des trucs que qu'on n'avait quasiment pas. Ce qu'on a fait, c'est que là, on a demandé à la CFDT comment on faisait, et ils nous ont expliqué de monter avec le syndicat une caisse qui serait alimentée par deux sources, la CFDT, partiellement, pour aider un peu, et la Maison des artistes qui fait des avances au syndicat pour défendre les artistes.
Oui,
donc
d'accord.
Du coup... Là, en ce moment, il y a une douzaine d'actions en justice. C'est des actions un peu emblématiques.
Ah oui.
Ah ouais, vraiment. Par exemple, c'est un type, vous voyez, qui faisait des fresques dans une grande ville de la région parisienne, sur les murs. Mmh. Il a fait ses fresques et tout. Et puis un jour, il s'aperçoit que les fresques sont détruites sans qu'on lui demande son avis. Comme ça. Alors, il râle. Et,
par la mairie, enfin.
Ouais, par la mairie.
Officiellement,
ouais,
quoi.
Disons, je sais pas quoi. Et alors... Iral me dit, mais non, mais vous n'étiez pas artiste. Non, vous n'avez aucun droit moral sur l'œuvre. Parce que artiste dit droit moral. Hein.
Mais il avait été payé pour ses fresques.
Il avait été payé.
Ah oui, d'accord.
Oui. Il avait été payé.
Oui, donc...
Non, mais vous avez été payé pour comme un dessinateur de rue, quoi, tu vois. Oui.
Ouais. D'accord.
Alors, on a plusieurs affaires comme ça. Du coup, la partie juridique, c'était pour expliquer qu'on va un peu plus loin qu'avant. Donc ça, c'est récent, hein. Ça a une année. Une année, ouais, exactement.
Oui, parce que ça, il y a eu la réforme en janvier.
Oui, c'est le début.
Fusion, en tout cas.
Ouais, c'est le début. Et la deuxième partie de la réforme, qui concernerait, en fait, la gouvernance du truc futur, et quelle place pour la GSA association, les OGC, et quelle place pour la MDA association, ça, c'est pas défini. Mais normalement, ça devrait être défini, c'était prévu d'être défini en fin d'année, mais ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Et alors nous, ce qu'on a décidé, tout le bureau là, unanime, c'est on continue d'en offrir, on développe les services. Alors un autre service qu'on offre maintenant depuis 2 ans, oh non, depuis 4-5 ans, c'est une mutuelle spécialisée artistes, parce que les artistes ils ont pas beaucoup de ronds, avec un tarif qui est vraiment pas mal quoi, je dirais.
Bon. Ouais.
On a un contrat avec une grande compagnie d'assurance, s'appelle NR. Qui est assez spécialisé dans le transport d'œuvres d'art, mais on leur a dit, attendez, nous, on n'est pas des musées. Hein. Les gens, ils veulent un tarif, voilà. et les assurances.
Voilà. Donc tout ça, quand on a la carte Maison des
voilà,
artistes,
ça,
on
c'est
a des tarifs.
On a des tarifs spéciaux.
Okay.
Ensuite, il y a tous les fournisseurs.
Bon, ouais. Là, Beaux-Arts, Bosner, voilà, tout ça.
Exactement, Marin, tous ces trucs-là. Le dernier volet qu'on voudrait développer, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est... créer un réseau d'artistes associés, mais locaux, vous voyez, qu'on aiderait par du mécénat à gérer, à développer et à gérer un lieu d'exposition. Pour que ça marche, il faut une équipe solide, hein, parce que c'est quand même gérer une petite, c'est comme gérer une association,
ouais. Hein,
avec des revenus, il y a des gens qui travaillent, il faut les rémunérer, enfin, c'est un peu du boulot, quoi. Donc il faut tomber sur une bonne petite équipe, quoi, vous voyez.
Ouais.
Et donc il faut les former. Et donc c'est ça qu'on aimerait développer. Et à chaque fois, aider au financement, je ne sais pas, de l'ordre de 10 000 euros, vous voyez, pour aider au moins la première année, quoi.
Mm.
10 000 euros pour aider, et puis après on verra comment ça se... Oui, donc ça serait un réseau qu'on aimerait bien faire. Donc en fait, développer tous les services qu'attendent... soit de manière gratuite, soit de manière très, comment dire, très, très peu chère, quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà, c'est ça qu'on veut faire.
Ok.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à un artiste qui est en train de se lancer, qui veut se lancer, ou qui passe d'amateur à professionnel?
Ouais, c'est une bonne question, ça. J'avoue que je lui dirais sois courageux.
Ouais.
Parce que c'est un métier de chien. C'est un métier plaisant, mais c'est un métier de chien.
Mmh. Hein?
Moi, personnellement, j'ai gagné pas mal d'argent avant. Après, j'ai dit à mon épouse, pendant les 10 premières années de notre vie, c'est moi qui faisais bouillir la marmite parce qu'elle s'occupait des enfants. Mmh. Bon, à l'époque, les femmes étaient, c'était années 60, début 70, les femmes.
Oui, ça se faisait comme ça.
Elles bossaient pas beaucoup, hein. Mmh. C'est venu un peu après, quoi, 10 ans après. Donc, je lui dis, maintenant, ça va être l'inverse. Est-ce que tu es d'accord? Et elle était d'accord, donc. Mais c'est vrai qu'il faut être courageux, quoi. Par moment, c'est un peu à se taper sur la tête, quoi. Non, il faut être courageux. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des réseaux.
Ouais.
Parce que tout seul, c'est très, très difficile. Mmh. Ou alors, c'est très difficile, ou alors le coup de chance, quoi. C'est pas...
Oui, bien sûr, on ne peut pas compter là-dessus.
On ne peut pas compter là-dessus.
Mais c'est pas ça qu'il faut attendre.
Ouais, exactement.
Et il y a un conseil que tu te serais donné au toi d'il y a 25 ans?
La question que je me serais donnée, c'est est-ce que ça aurait valu le coup que je commence, que je ne sois pas ingénieur?
Ah ouais?
Je commence comme artiste. Ouais, je me suis posé la question. Mais c'était une autre vie à ce moment-là.
Ouais.
Mais je me suis posé la question. Mais quand même, je suis content de ce qui s'est passé, parce que ça m'a permis de faire quelque chose en création que je n'aurais pas pu faire avant. Mmh. Tu vois, parce que j'avais des sous que j'avais gagnés,
ouais,
quoi. Donc du coup, je pouvais monter sur des coups un peu plus difficiles, quoi. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais adhéré à un groupe pour pas être seul.
Ouais.
Je l'ai fait un peu tard.
Okay.
Ouais. Ah oui, ça c'est sûr que ça aide.
Ça c'est un. C'est
Et puis
un...
ça aide aussi moralement, quoi. Ça diminue le stress. Quand on est tout seul dans son atelier, on a des idées noires qui tournent aussi, non? C'est bien d'avoir des gens qui, avec une confiance mutuelle. Ça, on trouve ça dans un groupe.
Ouais.
Pour ça que je pense qu'il faut le faire très tôt.
Bon, merci beaucoup.
Ouais, mais c'est sympa de faire ça.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir, ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeons et Hirondelles, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeons.hirondelles, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeons-hirondelles.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.